like a tragedy, tearing me apart like a new emotion.
Hortense Vol, tous les vendredis à 15h10 TU sur RFI.
Merci d'écouter RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
Andréane Mellard.
Et Nemo Opis pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Nous sommes à Ouvira, Nemo, dès le début de ce journal. Là-bas, les habitants attendent la réouverture de la frontière avec le Burundi.
Et ne manquent pas de le faire savoir. Ils sont nombreux à avoir interpellé le gouverneur provincial de retour dans la ville un mois après le départ de l'AFC M23. RFI y était, reportage. Les désaccords sont nombreux au sein de l'Union européenne après que l'UE a décidé d'envoyer une délégation à Washington ce jeudi pour l'inauguration du Conseil de la paix de Donald Trump, délégation de simples observateurs. Nous sommes à Odessa ensuite, ville côtière du sud de l'Ukraine où le mercure est en dessous de zéro et où 100 000 habitants environ sont toujours privés d'électricité après les récentes frappes russes. La jeunesse en force dans les allées du sommet mondial sur l'intelligence artificielle en Inde et puis la disparition hier à l'âge de 76 ans de Leila Shahid, porte-voix de la cause palestinienne à travers le monde. Témoignage en fin de journal.
L'impatience et la souffrance des habitants d'Ouvira dans l'est de la République démocratique du Congo.
En fin d'année dernière, les rebelles de l'AFC M23 soutenus par le Rwanda s'emparaient de la ville. Oui, mais voilà, environ un mois que les éléments du groupe politico-armé l'ont quitté. Et ses habitants attendent impuissants la réouverture de la frontière avec le Burundi. Ouvira, où a pu se rendre notre envoyé spécial Florence Maurice en compagnie de Jean-Jacques Pouroussi, gouverneur provincial du Sud-Kivu, interpellé par la population. Reportage.
À l'entrée du marché d'Ouvira, une vendeuse interpelle le gouverneur du Sud-Kivu. Ouvrez la frontière, lance-t-elle, devant des étals clairsemés. Depuis la fermeture avec Bujumbura, l'économie locale tourne au ralenti. Une autre femme s'avance pour implorer le gouverneur. Ses proches ont fui à l'arrivée de l'AFC M23 et restent coincés côté burundais.
Beaucoup d'enfants sont là-bas. Il y a mes enfants et les enfants de mon oncle.
Le gouverneur écoute et dit sa frustration.
Oui, un sentiment d'impuissance face à cette souffrance. Nous voulions que la province, la frontière soit ouverte le plus rapidement possible. Mais il y a aussi des impératifs sécuritaires liés à la réalité des deux pays. Il faut savoir que l'ennemi n'est pas si loin que ça. Il est ici à 5 et c'est à 30 km. Et dans les hauteurs, il est à une quinzaine de kilomètres d'ici.
Mais sur le terrain, certains n'attendent plus. Raphaël, 19 ans, a fui le site de réfugiés de Boussouma.
Donc là-bas, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de souffrances. Il y a aussi le manque d'eau.
Il a traversé le lac Tanganyika en pirogue de nuit, au péril de sa vie.
Nous sommes venus à Troyes. Mais mes frères sont restés à Katumba parce qu'ils s'étaient attrapés.
À ses côtés, un homme confie lui aussi son histoire et sa traversée clandestine accrochée à un simple bidon pour rester à flot. Ils étaient 14 au départ, deux n'ont jamais atteint la rive. Florence Maurice, de retour d'Ouvira, RFI.
De son côté, le ministre burundais des Affaires étrangères estime que les conditions de sécurité ne sont pas encore toutes réunies pour une réouverture.
Donald Trump donne rendez-vous ce jeudi aux participants de son Conseil de la paix.
Inauguration prévue à Washington, à l'Institut pour la paix, fraîchement rebaptisé Institut Donald Trump. C'est le président américain lui-même qui a imaginé ce Board of Peace dans un premier temps pour organiser la reconstruction de la bande de Gaza. Mais il est vu d'un mauvais œil par de nombreux experts qui y voient une manière de contourner l'Organisation des Nations Unies. Pour l'heure, on compte 27 pays participants hors États-Unis. Quelques observateurs sont également de la partie aujourd'hui, parmi eux l'Italie ou encore l'Union Européenne, ce qui fait beaucoup parler à Bruxelles, où l'on retrouve Elena Loison.
Dès l'annonce lundi de la présence de Dubravka Šuica, la commissaire européenne en charge de la Méditerranée, à cette première rencontre du Conseil pour la paix, plusieurs groupes politiques du Parlement européen ont fait part de leur incompréhension. Les eurodéputés députés libéraux du groupe Renew ont souligné que sa présence envoie un mauvais signal et légitime un organisme qui marginalise l'ONU, tandis que le groupe des eurodéputés socialistes a lui demandé des clarifications sur les raisons de cette participation, une position notamment défendue par Chloé Ridel, eurodéputée socialiste française, membre de la Commission des droits de l'homme au Parlement européen.
On ne va pas légitimer un organe qui vise à concurrencer l'ONU et qui est créé par quelqu'un qui nous agresse matin, midi et soir, à savoir Donald Trump, et qui rassemble autour de lui tout le gratin des dirigeants dirigeants autoritaires mondiaux. Donc que la Commission européenne se prête à ça montre encore une fois l'esprit de soumission dans lequel elle est vis-à-vis de l'administration américaine.
Plusieurs pays se joignent à ces critiques. La Belgique, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande, la France et la Slovénie sont vent debout et dénoncent une décision qui dépasse les prérogatives de la Commission européenne. Hélène Loison, Bruxelles, RFI.
Je précise que la reconstruction de Gaza devrait être au programme des discussions, tout comme le potentiel déploiement d'une force internationale de stabilisation dans l'enclave palestinienne.
Des discussions difficiles et des positions qui restent éloignées.
Ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'issue des discussions à Genève avec la Russie, qu'il accuse de tenter de faire traîner en longueur les négociations. Voilà pour les coulisses. Pendant ce temps-là, sur le terrain, Moscou continue de viser les infrastructures électriques, privant de courant des centaines de milliers d'habitants. C'est le cas à Odessa, où la température est de moins 4 degrés actuellement et où la neige est tombée ces dernières heures. Alors certains trouvent refuge dans des tentes mises en place par les autorités. Reportage de nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Julien Boileau.
Une tempête de neige s'est abattue sur Odessa. Certains arrivent en luge jusqu'à cette grande tente blanche chauffée par un générateur. À l'intérieur, quelques tables, des boissons chaudes et surtout des prises électriques, bien utiles pour Damien, 36 ans, privé de courant chez lui depuis une semaine.
Quand tu n'as plus d'électricité, tu ne peux plus rien faire. Tu n'as plus de lumière, tu vis comme au temps préhistorique. Là, je suis venu recharger mon téléphone et aussi discuter avec des gens.
L'électricité, pour Natalia, c'est comme l'eau. Il y en a juste de temps en temps chez elle. Pas assez pour nourrir correctement son fils de 8 ans qui l'accompagne.
Je m'inquiète surtout pour mon enfant. Je ne peux pas lui cuisiner de repas chauds. C'est ça qui est le plus difficile pour moi.
Victoria et sa fille de 9 ans, emmitouflées dans une combinaison de ski, prennent un thé avant de repartir chez elles. Il fait 16 degrés dans leur appartement et là encore, il faut s'arranger avec les horaires d'électricité.
Il n'y a environ que 3 heures d'électricité dans la journée, mais il y en a la nuit. Alors j'en profite pour travailler la nuit sur mon ordinateur. Je suis indépendante.
Faute de moyens, Victoria ne peut pas s'acheter pour l'instant de grosses batteries externes comme le font certains Ukrainiens. Nous voudrions juste une vie normale, plaide-t-elle, une vie civilisée. Muriel Paradon, Julien Boileau, Odessa, RFI.
Et ce matin, Moscou dit avoir détruit 113 drones ukrainiens cette nuit, notamment dans le nord-ouest du pays. La Russie qui va mener des manœuvres navales communes en mer d'Oman et dans l'océan Indien avec l'Iran, la même où stationnaient des forces navales américaines en vue d'une éventuelle attaque contre Téhéran. Et alors que Washington presse la République islamique de conclure un accord pour éviter des frappes, l'Iran, qui disait hier élaborer un cadre en vue de prochaines discussions avec les États-Unis. J'ajoute que les médias iraniens ont également annoncé des manœuvres communes avec la Chine et la Russie, sans toutefois en préciser les dates.
L'intelligence artificielle doit être accessible et inclusive.
Déclaration de Narendra Modi, le Premier ministre indien, à l'ouverture d'un sommet mondial sur l'IA à New Delhi. Y sont présents également de nombreux chefs d'État et de gouvernement. Emmanuel Macron pour la France, Lula pour le Brésil. Le patron d'OpenAI, Sam Altman, lui aussi doit prendre la parole. En attendant plus de déclarations, promenons-nous dans les allées du forum où se trouvent une majorité de jeunes indiens, véritables réservoir de talents. C'est un reportage d'Abdullah Erali.
Selon la NASCOM, la puissante fédération indienne du numérique, l'Inde doublera son nombre d'experts en intelligence artificielle d'ici 2 ans pour dépasser le million. Parmi ces nouveaux talents, Keshav, 22 ans, étudiant à l'université de technologie de Delhi, il a récemment été sollicité par des recruteurs japonais. Sa réponse a été audacieuse.
J'ai répondu, pas pour l'instant. Je vais rester tranquille en Inde et rendre mon pays tellement attractif que c'est vous qui aurez envie de venir y travailler.
Portés par cette dynamique, les jeunes indiens s'imposent désormais comme les véritables moteurs de l'IA.
Il y a eu énormément de recherches en machine learning et en IA en Inde, surtout ces 2 dernières années. D'ici 5 à 10 ans, l'Inde atteindra les plus hauts sommets dans ces 2 domaines.
Sonal Khanna est une des jeunes figures de la tech indienne, cofondatrice de SecureBlink, une société de cybersécurité pilotée par par l'IA, elle mise sur ce rassemblement technologique de Delhi pour accéder au marché mondial.
Le public international peut voir nos produits en action. C'est pour nous une opportunité mondiale de présenter nos innovations made in India au reste du monde.
L'Inde s'attend à un bond de 500 milliards de dollars dans son économie grâce à l'IA. Un pari sur l'avenir porté par son dynamisme démographique. Abdullah Erali, New Delhi, RFI.
Et dans une heure, le dossier du journal de 8 heures sera consacré à ce sommet. Nous appellerons Abla Junaidi, envoyé spécial de RFI en Inde à cette occasion.
Elle était l'une, si ce n'est la porte-parole de la cause palestinienne dans le monde.
Représentante de la Palestine en France, puis auprès de l'Union européenne, Leila Shahid s'est éteinte hier à l'âge de 76 ans. Devenue au fil du temps l'incontournable avocate de tout un peuple, elle a consacré sa vie à le défendre. Je vous propose d'écouter la réaction, l'hommage d'Hassan Balaoui qui fut l'un de ses collaborateurs.
Leila Shahid, elle fait partie d'une génération des battements palestiniens dans les années 70 qui arrivait à représenter la Palestine non seulement en termes politiques mais aussi en termes humains, tout en adaptant l'explication de la question palestinienne selon des normes et selon une mentalité et une culture européenne.
Beaucoup de diplomates palestiniens, y compris moi, des fois lorsqu'on représente la Palestine, on pense en termes arabes, on pense aux mentalités palestiniennes. On oublie des fois qu'on s'adresse à un public européen qui n'a pas les mêmes repères culturels, idéologiques.
Leila Shahid connaissait, en tout cas, elle essayait tout de prendre la culture de l'autre.
Hassan Balaoui, aujourd'hui ambassadeur de la Palestine au Mali, joint par François-Damien Bourgerie. Autre hommage, celui de Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, qui évoque une voix authentique de la diplomatie accomplissant les missions qui lui avaient été confiées avec compétence et distinction et contribuant à renforcer la présence de la cause palestinienne sur la scène internationale.
La Palestine en lumière à Berlin.
Où se tient la 76e édition du Festival international de cinéma et où pourtant plus de 80 acteurs et réalisateurs ont signé une lettre ouverte condamnant le silence des organisateurs sur ce qu'ils désignent comme un génocide. Un film palestinien est tout de même en sélection. Chronique des années de siège, signé Abdallah Al-Khatib, son premier long métrage de fiction, soutenu entre autres par le rappeur Fianso. Sophie Torlotin.
La plupart des réalisateurs suivent une vocation. Le palestinien Abdallah Al-Khatib, lui, est venu au cinéma un peu par hasard.
Je vivais dans le camp de Yarmouk pendant la guerre en Syrie. J'ai commencé à filmer avec une caméra et quand je suis venu vivre en Allemagne il y a 6 ans, l'un de mes amis producteurs m'a dit d'en faire quelque chose. Je ne connaissais rien au cinéma, je n'y étais même jamais allé, mais cela a donné un documentaire en 2021, Little Palestine.
Chronique des années de siège montre le quotidien de personnages en lutte pour leur survie. Et c'est par conviction que Sofiane Zermani apporte son soutien comme producteur.
Mon cœur est algérien et il est palestinien de fait. En tant que rappeur, j'avais déjà cette sensibilité pour la cause palestinienne. On se retrouve avec ces gens qui sont délogés, martyrisés, déplacés, torturés. Et aujourd'hui, on le vit en 4K. Et moi, je fais pas le chevalier, mais à un moment, il y a une empathie que j'arrive pas à cacher, quoi. Moi, je dors pas le soir. Je sais pas comment ils font. Je critique personne. Il y a pas de souci, mais ça fait partie de Sofiane, de Fianso et de Sofiane Zermani aujourd'hui.
Chronique des années de siège a suscité l'attention des festivaliers berlinois et l'intérêt de distributeurs français et européens.
Un sujet signé Sophie Torlotin.
Et un journal de Nemo en Peace, RFI dans moins de 10 minutes. Notre grand invité international, le numéro 2 de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Il va répondre aux questions d'Arnaud Pontus. Sport avec vous, Antoine Grenier. Le foot et la Ligue des Champions à la une. 4 matchs, 19 buts marqués. Les barrages allés se sont conclus, on peut le dire, de manière spectaculaire.
Et avec le très large succès de Newcastle, un Atlético tenu en échec par Bruges, la victoire de Leverkusen et même la surprise Bodo Glimt des Norvégiens qui n'ont fait aucun complexe face à l'Inter, pourtant finaliste en titre. Le résumé de la soirée avec Babacar Diarra.
Des températures négatives, une pelouse synthétique, une équipe de Bodo Glimt tenace, le piège est
était parfait. L'Inter Milan est tombé dedans avec une défaite 3-1 face au club norvégien qui dispute sa première Ligue des Champions. Les Nerazzurri étaient pourtant prévenus après la défaite de Manchester City en janvier dans le cadre champêtre du stade Aspmira. Mardi, pour le match retour, le club lombard ne pourra pas se permettre de démarrer une nouvelle fois sans son international français Marcus Thuram. Son ex-coéquipier chez les Bleus, Antoine Griezmann, a été passeur, mais pas buteur, pour l'Atlético Madrid dans un match intense comme toujours lorsque Bruges reçoit en cette saison européenne. Les Colchoneros sont menés 2-0, puis 3-2. Une inconstance finalement sanctionnée par l'égalisation de Cristio Stolis en toute fin de match. Tout est ouvert entre ces deux équipes. À l'inverse, Newcastle a plié les débats en Azerbaïdjan face à Karabakh avec un quadruplé d'Anthony Gordon dès la première mi-temps. Le score final 6-1 permet aux fans des Magpies de se projeter sur l'adversaire en huitième qui sera Chelsea ou le Barça. Enfin, le match le moins prolifique de la soirée a vu les Allemands de Leverkusen s'imposer 2-0 en Grèce face à l'Olympiakos.
Babacar Diarra, et les barrages retour de cette Ligue des Champions se tiendront la semaine prochaine.
Et alors aujourd'hui, les autres Coupes d'Europe sur le terrain, Antoine, avec notamment les barrages de la Ligue Europa.
Et le LOSC opposé à l'Étoile Rouge de Belgrade, des Serbes qui avaient déjà battu les Dogs lors de la phase de Ligue à Belgrade. Coup d'envoi 20h, temps universel.
On termine avec les Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina en Italie. Le biathlon français reste au sommet.
Avec un cinquième sacre tricolore, celui du relais féminin, les Françaises Camille Bened, Lou Jean Monod, Océane Michelon et Julia Simon s'imposent et apportent une 10e médaille au biathlon tricolore. Le ski de fond français pourvoyeur de podium et peut-être à nouveau ce jeudi avec la toute nouvelle épreuve, le ski alpinisme, discipline à la fois d'endurance et de vitesse sur des formats courts où il faut successivement faire une montée à ski, puis les porter sur des passages raides avant de redescendre en hors-piste. Deux épreuves au programme, le relais mixte samedi et aujourd'hui le sprint, avec en tête d'affiche Thibaut Anselmet, double vice-champion du monde 2023-2025, double tenant du titre mondial en relais mixte et triple vainqueur en titre de la Coupe du Monde en individuel.
C'est sûr que j'ai une grande chance de médaille. Sur le sprint, je ne suis pas le grand favori. Le grand favori, c'est plus Oriol Cardona, un Espagnol, qui enchaîne quand même pas mal de victoires en Coupe du Monde et puis c'est le champion du monde en titre. Moi, je veux dire que je suis le premier outsider, mais je suis prêt à le challenger et je pense être capable de le battre. Et ensuite, sur le relais mix, par contre, c'est sûr que l'équipe de France, on est clairement favori et on a tout gagné, donc on va essayer de continuer dans ce sens. On a une super équipe et on va tout faire pour confirmer ça.
Thibaut Anselmet, joint par Christophe Diremzi en début des séries du sprint masculin à 9h30, temps universel.
Merci Antoine Grenier. 7h16 à Paris, tout de suite, c'est notre rendez-vous quotidien avec l'actualité économique. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
On parle ce matin de cette information relayée par le Financial Times. Donald Trump pourrait réduire prochainement une partie des droits de douane sur l'acier et l'aluminium. Cette mesure au cœur pourtant de la stratégie protectionniste du président américain. Oui, mais voilà, à y regarder de plus près, cette décision qu'il pourrait prendre donc est certes surprenante, Stéphane, mais ça s'explique.
Exactement. Et on le rappelle, le président américain a relevé jusqu'à 50% les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium. Il a ensuite élargi ses surtaxes à des centaines de produits fabriqués à partir de ces métaux, comme les pièces auto ou encore l'électroménager. L'objectif que Donald Trump affiche est toujours le même, d'ailleurs, protéger l'industrie américaine et lutter contre les stocks chinois en surnombre et surtout moins cher. Sauf que dans les faits, ces droits de douane précis ont alimenté l'inflation aux États-Unis car l'acier et l'aluminium sont partout dans notre quotidien, de la canette aux boîtes de conserve en passant par les voitures ou les réfrigérateurs. Bref, Andréane, toute l'économie est concernée.
Donc les mesures de Donald Trump pèsent sur le pouvoir d'achat des Américains.
Et oui, selon le bureau du budget du Congrès américain, 95% du coût des droits de douane est finalement supporté par les consommateurs et les entreprises du pays. Et politiquement, ce n'est pas vraiment bon pour le moment, car l'inflation reste la première préoccupation des électeurs américains. Sauf que voilà, dans quelques mois vont se tenir les élections de mi-mandat. Et donc, ce mécontentement du consommateur devant la cherté de la vie devient petit à petit un risque électoral majeur.
Mais Stéphane, le président américain reste un homme d'affaires. On le sait, on peut aussi imaginer qu'il prenne en compte les intérêts des entreprises du pays.
C'est vrai, on le disait, les entreprises américaines souffrent énormément. Pour les groupes dont la matière première est l'acier et l'aluminium, la facture, elle explose. Par exemple, le constructeur automobile Ford annonce une facture douanière de 2 milliards de dollars pour l'an passé. C'est le double de 2024. Alors concrètement, produire aux États-Unis, ça coûte à présent
beaucoup plus cher et ce sont les fabricants eux-mêmes qui doivent absorber les surcoûts de ces matières premières.
Et à ça, il faut ajouter justement que ces droits de douane ne s'appliquent pas seulement à ces matières premières.
Et non, ils s'appliquent aussi à des milliers de produits dérivés calculés en fonction de la teneur exacte en acier ou en aluminium et de l'origine du métal brut qui est utilisé. En résumé, c'est un casse-tête bureaucratique et recruter du personnel en charge de vérifier tout cela, ça coûte aussi beaucoup d'argent aux entreprises. Et puis c'est le corollaire de tous les éléments qu'on vient d'évoquer, Andriane, le lobbying, un lobbying qui est aussi politique, car le protectionnisme peut aussi avoir ses limites électorales. Donc si Donald Trump veut préserver son image de défenseur de l'industrie nationale tout en allégeant la facture pour les ménages et les entreprises, il ne doit pas renier sa doctrine générale, non, mais corriger ses excès les plus coûteux. Et en envisageant cet allègement, le président américain cherche finalement à reprendre le contrôle du récit économique dont il veut être l'auteur, même si cet ajustement tactique est dicté par une certaine contrainte politique.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie. 7h19 à Paris, on passe à notre invité. Dans nos studios ce matin, face à Arnaud Pontus, Jean-Marie Pogam, directeur général adjoint de l'OMC.
Bonjour Jean-Marie Pogam.
Bonjour Monsieur Pontus.
Soyez le bienvenu sur RFI. Droits de douanes américains, sanctions commerciales, turbulences géopolitiques. Le commerce mondial est sous tension, c'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce que cette année 2026 sera compliquée ?
Absolument. On a un choc qui est venu de ce changement de politique commerciale américaine en 2025. Après 80 ans de continuité dans la politique commerciale, le choc, c'est un choc d'économie réelle, c'est un choc de gouvernance, on y reviendra peut-être. Mais en termes d'économie réelle, on sait que ça va se traduire par une contraction du commerce. Ce qu'on ne sait pas, c'est à quelle vitesse l'onde de choc se propage. Et il y a eu des effets compensateurs, si j'ose dire, qui se sont produits en 2025. Le premier, c'est d'abord que les tarifs sont arrivés assez tard et que les entreprises ont créé des stocks sur le marché américain pour anticiper.
Ils avaient anticipé,
exactement,
envoyé des produits qui se retrouvaient sur le sol américain, qui donc n'étaient pas soumis à ces surtaxes douanières.
Voilà, donc ça a été un premier amortisseur. Deuxième amortisseur, un peu plus inattendu, c'est le boom de l'IA, de l'intelligence artificielle. Énormément d'investissements, donc tous les composants qui servent à l'IA, ça va des matériaux, des minerais critiques jusqu'aux ordinateurs, aux logiciels, etc.
Oui, tout ce que l'IA a de physique, en fait.
Exactement. Ouais. 42% du commerce mondial en 2025, ce qui fait que la performance du commerce en 2025 a été relativement bonne, 2,5%. Et nous, on anticipe que ça va descendre à 0,5% cette année.
Donc le choc est à venir, Jean-Marie Pogam. C'est
exactement.
Ça. Mais un choc violent, parce que là, vous nous parlez d'une forte baisse du commerce mondial.
Voilà, un choc violent, mais avec cette incertitude sur les effets compensateurs. Également sur, vous l'évoquiez à l'instant, sur les ajustements tactiques que fera l'administration américaine, parce qu'il y a des exemptions dans ces droits de douane. Donc, on va réviser, nous, nos projections, on les publiera le 19 mars. Il est possible qu'elles soient un peu délayées, si j'ose dire, ou reportées. Mais le choc, il est là et il est récessif.
Oui. Moins de commerce, moins d'échanges, c'est fatalement moins de richesses.
Absolument, puisque généralement le commerce est à peu près 25% du PIB mondial, donc vous avez un quart de moins de dynamique, vous éteignez un de vos quatre moteurs sur votre quadrimoteur.
Oui. Qui va trinquer, Jean-Marie Pogam ? Qui vont être les victimes de ce ralentissement du commerce mondial que vous nous annoncez ?
La répartition, elle est un peu aveugle, parce que les chaînes de valeur sont plutôt résiliente. On les voit se recomposer, on voit le commerce se réorienter vers d'autres destinations. Donc pour le moment, il y a une espèce d'aléa, mais comme toujours, plus vous avez un commerce dominé par des rapports de force, plus les pays les plus faibles risquent de s'en trouver affaiblis.
Impactés, affaiblis. À qui la faute de ce désordre ? Est-ce qu'il faut blâmer le président américain ? Je sais que vous ne voudrez pas aller évidemment sur la question de donner des bons ou de mauvais points, mais est-ce que vous comprenez Donald Trump et sa logique, vous en tant que numéro 2 de l'Organisation mondiale du commerce ?
Ce qu'on comprend, c'est beaucoup de questions qui sont sous-jacentes à la logique actuelle du président Trump et qui d'ailleurs ont animé ses prédécesseurs dans certains domaines. Il y a notamment vis-à-vis de l'Organisation mondiale du commerce une frustration sur le fait que la réciprocité des conditions de commerce n'a pas été mise à jour depuis environ 30 ans. Vous avez, l'OMC a été créée il y a 30 ans par ce qu'on appelle l'Uruguay Round. À ce moment-là, les Américains ont baissé leur tarif douanier à 2% et ils attendaient que
Tout le monde fasse la même chose.
Petit à petit. Ceci ne s'est pas produit. Donc ça, c'est une cause de frustration. Il y en a d'autres. Ils sont, comme vous le savez, soucieux de leur relation vis-à-vis de la Chine et ils considèrent qu'il y a un modèle économique alternatif qui ne joue pas avec les mêmes règles. Donc ils estiment que là aussi, les règles du commerce mondial sont biaisées et les défavorisent. Donc il y a une logique sous-jacente qui était partagée très largement par les démocrates, par l'administration Biden, par l'administration Obama, antérieurement, qui par contre ne s'était pas traduit par une rupture aussi radicale sur l'approche de la gouvernance internationale, de la coopération internationale et des engagements internationaux que celle de la
Oui, vous n'avez pas enclenché de guerre des tarifs. Il y a quelques jours, au Forum de Davos, votre patronne, directrice générale de l'OMC, a fait le constat d'une montée du protectionnisme, même avant les mesures prises par les États-Unis. Est-ce que ça signifie qu'on est en train de vivre la fin d'une certaine forme de mondialisation, Jean-Marie Pogam ?
Alors, la mondialisation, elle ne recule pas si vous regardez les tendances du commerce vis-à-vis de la production. On a pensé à un moment donné que ça serait deuxième, mais le commerce est toujours très dynamique, notamment la composante des services. Là où, effectivement, ce point du protectionnisme et du ralentissement est important, c'est qu'on mesure, depuis 2008, depuis la crise économique, la crise financière de 2008, on mesure les mesures restrictives au commerce. Et on est au niveau probablement le plus haut depuis 2008 en termes de stock de mesures prises par les pays pour restreindre leur commerce. Protectionnisme, oui, parce que si vous évoquez l'intention qui est... l'intention du protectionnisme, c'est de donner un avantage à vos entreprises.
Oui, c'est ça. On favorise, on protège la production du pays contre ce qui arrive de l'extérieur.
Voilà. Mais j'alerte sur le fait qu'il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de motivations derrière ces mesures restrictives qui sont de nature différente. Si vous vous souvenez du Covid, il y avait le Covid, l'interruption des flux avait créé un problème sur l'approvisionnement stratégique. Donc si vous considérez que vous devez vous sécuriser vos approvisionnements, que ce soit pour les médicaments ou les choses comme ça, vous prenez des mesures un peu restrictives pour votre industrie qui ne sont pas du protectionnisme pur. Vous avez des logiques identiques qui peuvent se trouver à l'œuvre en matière environnementale, en matière de politique industrielle, en matière de sécurité nationale, etc. Donc faisons attention sur l'aspect intention qui n'est pas nécessairement purement commercial.
Mais est-ce que le modèle que vous défendez, que l'OMC incarne en quelque sorte, n'est pas dépassé quand on voit cette poussée du protectionnisme, même si il faut faire des nuances comme vous venez de nous l'expliquer?
Je crois pas. C'est... Quand vous circulez en ville, c'est pas parce que quelqu'un brûle un feu rouge que la circulation s'arrête. Aujourd'hui, l'OMC, c'est 72-75% du commerce mondial dans les termes de ce qu'elle régit. Donc vous avez une très grande résilience du modèle.
Ça veut dire que les États jouent encore les règles du jeu telles que définies par l'OMC, qui sont la non-discrimination, c'est-à-dire on applique à tout le monde le même tarif, en fait.
Absolument, ça, hein. Absolument. Il y a des fautifs, mais globalement, ils le jouent encore. Ils y adhèrent, ils le disent quotidiennement dans les murs de l'organisation, et ils le montrent. Alors, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais par exemple, la guerre commerciale engagée par les États-Unis n'a pas été suivie, n'a pas été imitée par les autres.
Et parmi tout le monde ne s'y est pas mis.
Exactement. Oui. Et parmi les scénarios du pire qui aurait pu se produire pour l'économie mondiale, c'était la guerre commerciale généralisée, les représailles croisées dans tous les sens. Oui. Ça, c'était le plus récessif.
Et on n'y est pas.
Ça ne s'est pas produit. Donc il y a une résilience du système. Le système n'est pas parfait, il a tous les problèmes qu'on évoquait à régler, mais il résiste plutôt bien.
Ouais, dans ce grand chambardement, avec les tarifs douaniers, qu'est-ce qu'on peut dire de la réaction sur le continent africain ? Est-ce que le continent a continué à pouvoir tirer son épingle du jeu malgré tout ?
Alors le continent c'est très intéressant parce que vous savez le continent africain commerçait beaucoup sur des systèmes de préférence. Donc l'histoire classique, l'histoire ancienne, c'est plutôt des matières premières, plutôt concentrées dans certains pays et plutôt des préférences. Aujourd'hui le continent africain il est tout à fait conscient de son imbrication dans les chaînes de valeur mondiales et de son besoin de l'OMC et du principe de non-discrimination. Je vous donnerai un exemple. Deux grands producteurs de cacao, le Ghana et la Côte d'Ivoire, se sont trouvés à un moment donné face à un risque de tarifs douaniers différents sur le marché américain. Donc de discrimination. Donc c'était évidemment un problème majeur pour leurs exportations. Grâce à Dieu, ça a été résolu puisque les tarifs sur le cacao ont été éliminés, donc le problème ne se pose plus. Mais ça fait partie des prises de conscience et du nouvel intérêt de l'Afrique pour l'OMC. Et cet intérêt, d'ailleurs, il va se manifester d'ici moins d'un mois, puisque l'Afrique va accueillir notre conférence ministérielle.
Absolument. Où il sera question de réforme de l'OMC. Il nous reste 20 secondes, donc c'est vraiment très court. Si l'OMC n'existait plus, qu'est-ce qui se passerait sur le commerce mondial ?
Nous aurions un monde régi par les rapports de force.
Donc ça n'est pas tolérable.
Donc ça n'est pas tolérable. Il y aurait trop de pertes pour chacun et on ne pourrait pas gérer ensemble les défis communs, que ce soit ceux de l'IA, il y a un sommet aujourd'hui en Inde, oui, que ce soit ceux du climat et que ce soit ceux de la lutte contre la pauvreté, etc. Donc c'est pas envisageable. Et l'enjeu d'Yaoundé dans un mois, c'est la réforme de l'OMC pour répondre aux questions justement qui ont amené ces frustrations, entre autres américaines.
Eh bien, on aura l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Marie Pogam d'être venu ce matin sur RFI.
Merci de votre invitation.
Entretien avec Arnaud Pontus.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
psoriasis, eczéma, mieux comprendre les liens entre santé de la peau et santé mentale.
Demain,
émission Questions de femmes consacrée à l'allaitement maternel.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Les dessous de l'Infox, Paul Lancin-Spinelli.
Le sommet mondial sur l'intelligence artificielle se tient cette semaine en Inde pour peser face aux mastodontes américains et chinois qui dictent les règles du jeu. Quelle stratégie pour l'Inde et l'Europe ? Quel équilibre trouver entre innovation et régulation ?